Docteur Perrault, on a vu ça dans la presse ce matin. Donc, un enfant des Laurentides qui a contracté l'an dernier une infection potentiellement mortelle, jamais relevée jusqu'ici au Québec. Qu'est-ce qu'on sait de ce parasite et comment vous avez été mis au courant de ça? Comment on a trouvé ça chez l'enfant?
Oui, mais en fait, nous, on a reçu un signalement de la part d'un médecin vétérinaire qui travaille au MAPAC, en fait, qui nous a signalé cette situation-là. Donc, à ce moment-là, nous, comme on imaginait que c'était un premier cas, en fait, c'est pas on imaginait, mais c'était vraiment un premier cas qui était signalé dans la région. Parce que c'est important de préciser que ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Donc, c'est difficile à l'heure actuelle de connaître bien là, l'état de situation au Québec. Donc, dans ce contexte-là, nous, on a ouvert une enquête. L'objectif de notre enquête, c'était de voir, en fait, si la maladie avait été acquise ici au Québec, dans la perspective de voir s'il y avait la possibilité de mettre en place là, des mesures de prévention.
Et là, finalement, enquête qui a duré quoi, des mois?
Oui, ben en fait non, pas des mois là. En fait, on a commencé promptement. Il fallait bien documenter la situation. Ensuite, il fallait comme faire notre enquête. Puis dès qu'on a évalué en fait que l'acquisition avait été faite au Québec, on a commencé des interventions auprès de nos partenaires parce qu'on voulait voir, c'est ça, s'il y avait des mesures additionnelles à mettre en place. Donc en fait, on a informé les autorités provinciales de santé publique de la situation, puis on a aussi informé le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ainsi que le ministère de la Faune.
Et quelle a été la réponse de ces ministères-là? Est-ce qu'ils étaient au courant qu'il y avait ça au Québec?
Non, en fait, ils l'ont appris comme nous, d'où l'importance là, de les sensibiliser. Puis suite à cette collaboration-là avec les partenaires, ce qui avait été discuté, en fait, c'était de la nécessité là, d'informer les cliniciens de notre région et de sensibiliser, en fait, les intervenants de santé publique à cette situation-là pour augmenter le niveau de vigilance des gens.
C'est ça, parce que l'enfant en tant que tel avait des symptômes de perte de poids, avait des symptômes assez particuliers. Quels étaient ces symptômes qu'on a fait le lien, finalement, avec le parasite?
Bien, en fait, de façon générale, ce que je peux vous dire, c'est que la maladie se présente par une perte de poids, des maux de ventre, un malaise général, puis des symptômes d'atteinte au foie qui peuvent être variables.
Et là, on a fait le lien avec possiblement donc des œufs, si je comprends bien, qui sont présents dans des excréments de renard, de coyote. Parlez-nous un peu là, de comment ça se retrouve là.
Oui, bien, en fait, la maladie ne se transmet pas de personne à personne. Ça, c'est important de bien le comprendre. En fait, elle se transmet par les canidés sauvages, c'est-à-dire tout ce qui est les renards, les loups, les coyotes, en fait, qui sont le principal réservoir de la maladie. Ça se transmet aussi par les chiens domestiques et plus rarement les chats. En fait, ce qui se passe, c'est que le parasite va être excrété les œufs du parasite, en fait, vont être excrétés dans les selles, puis ensuite vont contaminer l'environnement. Et si nous, les humains, on est en contact avec cet environnement-là, bien, sans le savoir, on peut porter les œufs à notre bouche. Ce qui est important, je pense, de préciser ici, c'est que l'être humain est vraiment un hôte accidentel. Donc, c'est rare que l'humain va contracter là, l'infection.
C'est ça, c'est extrêmement rare. C'est quoi les chances que ça se transmette à un être humain? Dans la littérature, par exemple?
En fait, je ne pourrais pas vous dire de façon précise, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a ce qu'on connaît de la maladie, pour vous donner un exemple, c'est que dans le Canada, il y a eu très peu de cas qui sont survenus jusqu'à la date. En Alberta, ils ont documenté 5 cas qui sont survenus de 2013 à 2017, puis il y a eu un cas au Manitoba. Donc, c'est vraiment pas une maladie là, qui est fréquente. Puis comme je vous le rappelle, c'est un accident quand l'humain va attraper cette maladie-là.
Dans le cas qui nous occupe et sur lequel vous avez fait enquête à la Direction de santé publique, l'enfant, est-ce qu'on sait s'il était porteur depuis des années, de plusieurs années? Ça faisait combien de temps? Est-ce qu'on est capable de le savoir?
Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que quand on regarde l'histoire naturelle de la maladie, en fait, c'est qu'il y a une très, très longue période de latence. C'est-à-dire que pour que la maladie se développe, en général, on va avoir été porteur du parasite comme 5 à 15 ans en général.
Donc, on peut ne pas s'en rendre compte pendant des années et des années, de ce que je comprends bien?
Oui, effectivement.
Donc, est-ce que ça inquiète la santé publique actuellement bon, que finalement, ça peut rester dans le corps d'une personne des années avant qu'on s'en rende compte? Est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport à ça?
Bien, en fait, je vous dirais que d'un point de vue de santé publique, c'est tôt dans l'évolution de la situation pour avoir une vision globale. Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, il s'agit d'un cas unique, probablement accidentel. Donc, il va falloir voir au courant des prochains mois ou années s'il y a d'autres cas qui vont survenir. Je pense qu'il faut vraiment se rappeler que c'est un autre accidentel. Puis je pense aussi que l'humain est un autre accidentel. Puis il faut se rappeler qu'il y a déjà des mesures de prévention là qui existent dans une situation comme ça, dans le sens que c'est pas inhabituel hein, qu'un parasite puisse se transmettre là à l'humain par des selles des animaux tant sauvages que domestiques. Puis il y a vraiment des mesures de prévention qu'on utilise de toute façon pour d'autres maladies. Je vous donne des exemples. Par exemple, on va recommander de ne pas s'approcher des animaux sauvages. On va se recommander aussi de clôturer son terrain pour éviter que les animaux sauvages soient là. Aux côtés des animaux domestiques, bien, de bien se laver les mains après la manipulation des selles, de porter des gants lors de la manipulation des selles ou d'utiliser un double sac de plastique, de faire suivre nos animaux domestiques régulièrement s'ils vont dehors par un vétérinaire, puis de bien laver les fruits et les légumes du jardin là avec de l'eau de l'aqueduc avant la consommation. Donc, en fait, on sait qu'il y a des mesures de prévention qui sont déjà là, qui sont faciles à mettre en place, qui sont déjà connues là, par rapport à ça. Donc, je pense que d'un point de vue de santé publique, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est juste suivre l'évolution de la situation, puis on verra comment ça se déroule et advenant la survenue de nouveaux cas, bien, on pourra voir s'il y a des mesures additionnelles qui doivent être mises en place.
Docteur Perrault, on l'a échappé belle de ce que j'ai compris aussi dans l'article de la presse avec l'enfant en question parce que c'est une infection mortelle et quand même à très haut risque.
Bien, en fait, ce que la littérature va documenter, c'est qu'en l'absence de traitement, le taux de mortalité est de 90% 10 ans après pas le début de l'infection, là, mais vraiment le début de l'apparition des symptômes. Donc, de façon générale, c'est les données qu'on retrouve à cet effet-là.
Donc, l'enquête de santé publique se poursuit en collaboration avec les différents ministères?
En fait, de notre côté, l'enquête, elle est terminée. La collaboration, parce qu'on a documenté la source d'infection, la collaboration avec les ministères, effectivement, se poursuit. Puis on va suivre la situation pour voir comment ça va évoluer.
Je ne sais pas si vous qui êtes en mesure de répondre à cette question, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un changement quand vous me dites en début d'entrevue que les ministères ne sont pas obligés de divulguer, par exemple, cette infection-là? Est-ce que ça pourrait changer justement qu'on soit obligé de le dire aux autorités?
Bien, en fait, ça, c'est une décision qui relève du ministère de la Santé, en fait. Donc, moi, c'est ça, d'un point de vue régional, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là, mais je suppose que selon l'évolution de la situation, ils verront à se prononcer à cet effet-là.
C'est ça. Donc, vous avez, avec votre équipe, émis des recommandations, par exemple, au ministère?
En fait, nous, on a notifié le ministère de la Santé, comme je vous disais, aussi le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation du Québec et aussi le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, donc qui sont tous les trois là, au courant de la situation.
Selon vous, avec la médiatisation de ce cas-là, est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient dire « ben, je pense avoir ces symptômes-là », est-ce que les médecins, par exemple, sont au courant? Par exemple, si des gens posent des questions, disent « ben, j'ai entendu parler de ça, je pense être porteur de ça ».
En fait, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, dans la région, on a informé nos microbiologistes infectiologues là, de la présence de cette infection-là dans la région. Puis, on a aussi informé les autorités de santé publique et les intervenants de santé publique pour qu'ils soient vigilants face à cette situation-là.
Docteur Perrault, merci de nous avoir expliqué tout ça. Puis, en souhaitant qu'il n'y ait pas d'autres cas, évidemment, au Québec, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.